À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler d'une piscine qui est menacée à Saint-Sauvent et le maire en personne est venu là pour la défendre. Ce sera en seconde partie d'émission. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Mais tout de suite, on continue notre tour des candidats et candidates à l'élection sénatoriale partielle dans la Vienne. Et aujourd'hui, c'est Gisèle Jean qu'on accueille. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour donc votre candidat à cette élection sénatoriale de la Vienne qui est prévue en ce mois de mars 2024. D'abord, on va revenir un petit peu sur votre parcours personnel, professionnel, pour que nos auditeurs et auditrices sachent un petit peu plus qui vous êtes.
Alors, mon parcours, on remonte jusqu'à quand?
Bon, allez, vos études et puis...
Alors, mes études, métier. Je les ai faites ici, pas très loin, à la fac de sciences éco. J'ai passé le bac à... On peut revenir au bac, hein. J'ai passé le bac à Cognac. Et puis, je suis venue à la fac de sciences éco à Poitiers. J'étais rapidement responsable d'un truc qui s'appelait l'UNEF à l'époque et on défendait tous les étudiants. Voilà, j'étais présidente de l'UNEF lorsque j'étais étudiante. Après, je travaillais aussi comme à l'époque comme surveillante et j'avais envie d'être enseignante. J'ai passé le concours et je suis devenue enseignante à Montmorillon et je l'ai été pendant 22 ans. Et ensuite, j'étais aussi en même temps formatrice dans des enseignants à ce qui s'appelait à l'époque l'IUFM. Et voilà, donc... j'ai donc quitté mon poste d'enseignant en 2006 et je suis rentrée donc comme directrice du site de Poitiers de l'UFM. Et j'ai terminé ma carrière dans un bâtiment pas loin d'ici, le B20. Donc c'est très amusant ce matin d'être entre les deux, entre la fac de sciences éco et voilà, et ce bâtiment de formation des enseignants. Donc c'est vraiment mon point fort, on va dire. En même temps, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger aussi, beaucoup fait de formation d'enseignants à l'étranger. J'ai fini d'ailleurs ma carrière comme enseignante au Venezuela, à Caracas. Voilà.
Alors, une carrière dans le public, qu'est-ce qui vous a amené ensuite à la politique?
Alors, il faut dire que j'ai toujours été une militante, même toute petite. Je crois que la première fois que j'ai été élue, j'étais en troisième présidente du collège à l'époque. On avait des représentants. Et puis, j'ai toujours été très, très engagée pour la défense, pour la justice surtout. J'ai même été au MLAC toute petite aussi, comme quoi, on ne change pas beaucoup. Et puis j'étais syndicaliste, j'étais co-secrétaire générale du SNES, le plus gros syndicat enseignant du second degré. Et en 2010, on m'a proposé de conduire la liste des régionales en Poitou-Charentes. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je suis sans étiquette politique, mais je suis de gauche résolument. Je défends résolument des valeurs de gauche depuis toujours et je n'ai pas changé. Et je ne pense pas changer à l'âge que j'ai. Et du progrès social, mettre toujours les hommes au centre, les hommes et les femmes au centre de nos préoccupations, l'environnement également, mais penser toujours aux autres. Voilà. Et ça, je crois que c'est une constante de mon engagement, alors on va dire syndical, politique, mais aussi en tant que maire. Aujourd'hui, je suis maire et franchement, je pense que c'est ce qui nous permettra de laisser un monde meilleur à ceux qui nous suivront.
C'est ça, vous êtes déjà maire, donc maire de Caux. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à aller au-delà et à briguer ce mandat national?
Alors, il faut savoir que si on devient sénateur ou sénatrice, on n'est plus maire. Et ça, c'est vraiment désolant, parce que c'est là où on s'aperçoit comment les lois se mettent en place, quel handicap on peut avoir aussi, avoir des lois qui sont mal ficelées. En même temps, les collectivités ne sont pas représentées correctement au niveau national aujourd'hui dans le gouvernement. On peut le dire, il y a très très peu d'élus, pour pas dire aucun élu, locaux. Et ça manque énormément, en particulier des élus de la ruralité, mais pas une ruralité qui s'opposerait au monde urbain, mais qui se combinerait pour faire quelque chose de meilleur et de plus solide. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. On manque de collectifs et de réflexions collectives sur ce département en particulier. Sur beaucoup de sujets, on laisse à d'autres le soin de travailler pour nous. Je pense aux questions de l'eau, aux questions des déchets. On les traite chacun dans son coin et c'est dommage. Il nous faudrait quelque chose de très fort. Alors moi, je propose un Parlement des territoires où les élus pourraient se rassembler avec le choix du grand élu ou des grands élus pour travailler un sujet à fond et le porter ensuite soit à la préfecture, soit dans les commissions au Sénat et déboucher sur des lois ou sur des modifications de lois. Je parlais de la question de l'eau, elle n'est traitée qu'à la marge par rapport aux élus, mais aussi la question du traitement des déchets, de l'enfouissement, qui est un vrai sujet pour les 10 ans à venir. En 2040, il n'y aura plus de centre d'enfouissement dans la Vienne. Il faut qu'on ait traité cette question, mais on ne peut pas la traiter par petits bouts. Grand Poitiers d'un côté, Châtellerault de l'autre, etc. Et former un collectif, c'est une équipe sur la Vienne, c'est ça qui me motive. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le Sénat est un vrai contre-pouvoir à l'équipe en place du gouvernement. Et il faut absolument défendre à la fois les élus, les territoires et surtout nos collectivités. Je pense aussi que les mairies sont aujourd'hui le lieu où le lien social se tisse, où les gens se reconnaissent. Et c'est ça qu'il faut défendre. Or, on voit que les centres de décision s'éloignent de plus en plus des collectivités comme les mairies. Et je militerai très fortement pour une reconnaissance de ce travail bénévole, de ce travail très, très, très fort que portent aujourd'hui les élus sur tous les territoires.
Alors, vous n'êtes pas affilié à un parti, vous ne portez pas une étiquette, mais vous êtes soutenu, en fait, par la gauche, globalement.
Oui, alors, je m'étais présentée précédemment, en 2020. J'étais arrivée juste derrière, troisième, donc derrière Yves Boulou. Et la gauche avait décidé, dans le département, de soutenir une candidature, donc ça a été la mienne. Une gauche unie dans le département, ça ne s'est jamais vu pour une sénatoriale. Alors, ça remue pas les foules, parce que les grands électeurs, bon, ce qu'ils veulent, c'est un bon sénateur ou une bonne sénatrice. Et pourtant, ça serait un grand changement pour notre département si aujourd'hui, on avait à la fois une femme du Sud et, on va dire, avec des idées très progressistes.
Alors, quelles sont ces idées? Vous êtes aussi vice-présidente de la communauté de communes, hein, Vienne-Aigartemps. Vos sujets, c'est effectivement la transition écologique, toutes ces questions environnementales. C'est ce que vous voulez aussi défendre?
Alors, bien sûr. Aujourd'hui, je les défends sur le territoire de Vienne-Aigartemps. Je suis effectivement première vice-présidente depuis 2020, mais précédemment, depuis 2014, j'étais également à la transition écologique. Je suis aussi vice-présidente à la culture et je porte haut et fort la question de la culture un peu partout. Sur l'environnement, aujourd'hui, on a des vrais sujets sur l'ensemble du territoire français. Comme je disais, la question de l'eau, notamment de l'eau potable, le fait de pouvoir préserver les captages. Mais on a aussi des questions autour de l'énergie, ce mix énergétique qu'il nous faut vers... il ne faut pas le faire au détriment des paysages, il ne faut pas le faire au détriment des habitants. Il faut réfléchir quand on fait des implantations aujourd'hui, qui sont les plus puissants? Ce sont les grands groupes qui cherchent à s'implanter sur nos territoires. Juste pour vous donner un exemple, dans le sud de Vienne, on a aujourd'hui 140 éoliennes. Il y en a 300 qui sont accordées par des permis, malgré les refus parfois, souvent même des élus, des habitants et du préfet. Les tribunaux imposent finalement que les grandes sociétés puissent s'implanter. Et on a une vraie bataille locale pour protéger notre territoire. Nous souhaitons des énergies renouvelables. Nous en avons, on a de l'hydroélectricité. On est en train de développer de façon très partielle, mais le photovoltaïque et de façon très raisonnée. Et c'est cette raison qu'il nous faut garder. À la fois avancer sur les énergies vertes et en même temps écouter la population, écouter les élus.
Donc, votre binôme, c'est Dominique Chen. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre complémentarité à tous les deux?
Alors, il y a une complémentarité géographique. Dominique est sur Grand Châtellerault, la ville de Turet qui compte 3000 habitants, qui a un petit peu Châtellerault banlieue. Et puis, un petit peu ruralité. Il est très engagé dans les questions de solidarité. d'aide aux personnes, et on s'est retrouvés là-dessus. Il faut le dire. Et moi, je suis la candidate, on va dire, plutôt du Sud, aussi très engagée sur les questions de solidarité et avec une vision des choses complémentaire, parce que le Nord ne ressemble pas au Sud. On a beau dire géographiquement, en distance de population. Et donc, Châtellerault, c'est de l'industrie. C'est la plus grosse industrie. Le Sud-Vienne, c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup d'agriculture, c'est de l'élevage qui souffre aussi beaucoup. On a donc une vision différente. Et aujourd'hui, notre campagne a consisté, on a fait 74 réunions. On a vu plus de 200 communes, mais surtout, on s'est déplacé partout pour écouter les élus et voir la différence de territoire d'un endroit à un autre, des reconversions qui ont été faites. Et ça nous a beaucoup apporté à tous les deux. On espère pouvoir redonner cet apport ensuite.
Une dernière question, Gisèle Jean. Comment, alors il y a 6 candidats, comment vous pensez que vous et votre suppléant, vous pourriez faire la différence là, le 17 mars ?
Alors, c'est pas vraiment une bataille pour nous, c'est écouter et convaincre. Donc je ne sais pas si on fera la différence, je l'espère. La dernière fois, on avait eu plus de 340 voix. Là, ce que nous souhaitons, c'est que les gens se reconnaissent dans nos propositions, des gens sérieux, des gens qui ont beaucoup travaillé ces questions-là, qui leur ressemblent. Et on n'est pas là pour se promouvoir en tant qu'individu, on est là pour promouvoir des idées et permettre au territoire d'être plus fort.
Merci beaucoup Gisèle Jean, donc candidate à cette élection sénatoriale partielle. Les autres candidats sont donc Marie-Jeanne Bellamy, Xavier Monet, Cyril Siver, Karine Desroses et Frédéric Texier qui étaient à notre micro hier. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcast de l'émission d'hier et d'aujourd'hui sur notre site internet radio-pulsar.org. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je vous propose d'écouter Gervaise. Elle parle de l'acceptation de son corps. C'était la gagnante du Mans Pop Festival. Et donc son dernier album, c'est « Cher tendre ».
Tu aimes mes fesses dans la glace. Tu aimes mes jambes dans la glace. Tu aimes mes fesses dans la glace. Je les aime pas, je les aime pas. Tu aimes mes jambes dans la glace. Je les aime pas, je les aime pas. Mes épaules, mes genoux, moins de ci, plus de ça. Mon visage, mes bras et mon cou, ça te plaît, moi pas. Je lutte avec moi-même, à la ville encore plus qu'à la scène. Je lutte, je me bats avec moi-même. Quelqu'un sait-il comment on s'aime? Fuck mon corps, fuck mon corps. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on se regarde comme ça? Fuck mon corps, fuck mon corps. Faudrait, faudrait, faudra, faudra. Je scanne de profil et de face, ça me va pas, ça me va pas. Ma féminité qui dépasse, j'en fais quoi, j'en fais quoi. Je force mes abdos à la tâche, femme comme si, fait comme ça. Mais je compte les bouts de sucre glace que je vomis déjà. J'emmerde, j'emmerde comme je peux. Tous les diktats et leurs mots bleus, qu'elles aillent se faire voir où il pleut. Ces leggings sont pas comme je veux. Toute la nuit, t'es pas là que pour être jolie. J'en ai marre d'être polie. J'suis pas là que pour être jolie. Pas là que pour être jolie. À toutes les girls et les boys, à toutes les gueules et les causes.
virgule.
Vous savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
Pulsar, c'est bon.
Les oreilles entendent à nouveau.
Point d'exclamation.
Et notre second invité, c'est Christophe Chappet, maire de Saint-Sauvent. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une mobilisation de vous, de vos habitants de la commune de Saint-Sauvent, suite à l'annonce faite par Grand Poitiers de la possible fermeture de votre piscine. Racontez-nous déjà comment vous avez appris la mauvaise nouvelle.
Est-ce que je fais comme Gisèle, je reprends le CV depuis le début. Donc, on a appris la nouvelle l'année dernière, au mois d'avril, où on a été invité par le vice-président bâtiment et la vice-présidente sport avec une de mes adjointes pour nous annoncer que le schéma directeur des installations de piscine avait été sorti et donc avait plus ou moins décidé que notre piscine fermerait parce qu'elle demandait beaucoup de travaux.
Alors justement, quel est l'état actuel de la piscine? Elle est effectivement, il faudrait la rénover. Hein,
ça peut... Mais elle, comme toute installation, elle mérite des travaux. Hein. Elle a son âge, elle est de 1973, un âge honorable. Elle a été communale jusqu'en 2008. Après, elle a basculé dans la Comcom du pays mulhousain. Puis elle a suivi le mouvement et maintenant elle est dans le giron de Grand Poitiers depuis 2017. Donc de fil en aiguille, les investissements n'ont pas suivi, ce qui fait que maintenant elle est, je ne vais pas dire plus aux normes, mais elle mériterait quelques travaux. Et donc, suivant l'estimation faite par le cabinet de consultants, elle mériterait 1,2 million de travaux. Mais aujourd'hui, même en l'état actuel des choses, elle fonctionne. Elle a ouvert en 2022, même les années précédentes. 2023, elle a fonctionné. Elle est en capacité d'ouvrir, mais des investissements sont nécessaires pour l'avenir en termes d'accessibilité. Si la filtration tombait en panne, il faudrait la mettre aux normes, mais aujourd'hui, la filtration donne de l'eau de qualité puisque l'ARS nous autorise à ouvrir cette piscine.
Donc elle ouvre tous les étés.
Elle ouvre tous les étés.
À qui elle profite? Qui va dans cette piscine?
Alors, elle profite majoritairement forcément aux Saint-Sauventais, mais elle profite aussi aux habitants des communes limitrophes, contrairement à ce qu'on laisse croire, parce que les gens aiment bien aller dans une piscine d'été, c'est-à-dire une piscine ouverte, hein, qui est ouverte en juillet-août, et n'aiment pas être enfermés dans une piscine couverte. Donc, même si le cabinet de consultants a décidé que les gens iraient et se précipiteraient à Lusignan, c'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse. C'est les communes de Rouillé, de Lusignan, de Selles, on va même jusqu'aux Deux-Sèvres, parce qu'on est limitrophe de Deux-Sèvres, les habitants viennent à la piscine, et aussi comme il y a un grand espace vert, ils passent la journée ou une partie de la journée ensemble, à grands-parents, parents, donc les habitants, les grands-parents, les enfants qui viennent en vacances chez les grands-parents, le centre de loisirs de Grand Poitiers, hein, qui en bénéficie aussi, qui est installé à Saint-Sauvent. Donc ça va au-delà de la population saint-sauventaise.
C'est le cœur de l'activité du village pendant l'été, en fait. C'est là que tout le monde se retrouve.
C'est un lieu de rencontre intergénérationnel, hein, et qui permet aussi aux jeunes de s'occuper à Saint-Sauvent l'été.
À tel point qu'un collectif citoyen s'est formé. Racontez-nous qui en fait partie, comment ça s'est passé.
Alors il s'est formé déjà l'année dernière, donc en 2022, parce que la piscine a eu des difficultés à ouvrir en 2022. Hein, je rappelle, elle ouvre du 1er juillet au 31 août, et en 2022, pour des causes techniques ou de personnel, elle n'ouvrait pas. Et donc de colère, des habitants se sont mis en collectif, hein, donc ça peut être la directrice de l'école, en l'occurrence. Mais bon, les habitants qui sont là depuis des années ou des nouveaux habitants qui profitent des services de la piscine, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à manifester devant la piscine le 13 juillet 2022. Et miraculeusement, la piscine a ouvert le 14 juillet. Donc les pièces ont été retrouvées. Et depuis, ce collectif se manifeste régulièrement. Et essaie de participer au pourparlers avec Grand Poitiers. Et donc, depuis l'annonce de la fermeture et surtout depuis la fin de l'été 2023, tous les mois, il y a une manifestation assez visible, pacifique, sympathique, qui permet de rappeler au souvenir de Madame la Présidente de Grand Poitiers que les Saint-Sauventais ne lâcheront pas le morceau, même si c'est l'hiver.
Et donc, le 17 février dernier, c'était pour accrocher une guirlande de maillots de bain à Poitiers.
Tout à fait.
Donc, essayer d'interpeller la population. Ce qu'ils défendent aussi, c'est les services dans la ruralité aussi, peut-être ?
Totalement. C'est d'actualité avec les fermetures de classe. Hein. Et hier encore, mes voisins de Selles et Cloué manifestaient avec les parents d'élèves devant leur école. C'est tous ces services à la population qui sont rendus ou qui étaient rendus et qu'on perd petit à petit, malgré les beaux discours nationaux, hein, où on parle de ruralité, on essaie de convaincre les gens de ruralité, puis quand on vit la ruralité, ben on s'aperçoit que petit à petit, les services disparaissent pour des raisons économiques, hein, certainement, mais enfin bon, il y a des choix politiques qui peuvent être discutables et qui permettraient éventuellement de reverser des euros ailleurs que sur le quartier de la gare ou sur des pistes cyclables à Poitiers. Et de maintenir aussi des classes dans des communes rurales.
Alors, ce qu'on vous dit à Grand Poitiers, parmi leurs arguments, il y a le fait qu'ils préfèrent prioriser des piscines qui ouvrent toute l'année pour que les enfants puissent apprendre à nager, notamment, que les écoles puissent s'y rendre.
Oui, mais si à Saint-Sauvent, si on le veut, pour rendre service aux écoles, il fut une époque où la piscine de Saint-Sauvent était ouverte de juin à septembre, et ce qui permettait éventuellement aux enfants de Saint-Sauvent d'apprendre à nager. Sauf que maintenant, on leur demande de prendre un bus, hein, et puis d'aller à Lusignan pour apprendre à nager. Bon, la piscine, elle n'est pas forcément adaptée pour des gens qui apprennent à nager. Et deuxièmement, enfin, le temps du trajet, le temps de l'habillage, le temps de se baigner, le temps de rhabillage, de revenir en trajet, finalement, ils ne nagent pas beaucoup. Alors que si on ouvrait un peu plus cette piscine de Saint-Sauvent en amplitude, eh ben ça éviterait, et je pense que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourds, d'avoir des bus sur la route, question d'environnement, et permettrait aussi de rentabiliser un peu plus cette piscine de Saint-Sauvent.
Alors le problème, c'est que Grand Poitiers a 10 piscines, il me semble, à gérer, notamment la pépinière avec des gros travaux, 6 millions d'euros, et donc il n'y a plus de budget. Pour Saint-Sauvent.
Gisèle le sait bien, on gère une commune, un budget, oui, enfin, on répartit la misère. Là, en l'occurrence, la misère, elle n'est pas répartie. Hein, tout est à Grand Poitiers, enfin, tout est à Poitiers, pardon. C'est pour ça qu'on a aussi organisé une opération escargot, c'était au mois de novembre, je crois, une opération escargot de Saint-Sauvent jusqu'à Poitiers, et on est allé voir les 5 piscines, dont celle qui est fermée. La discussion, c'est pas, parce qu'on me dit, on ne peut pas multiplier par 2 ou 3 le budget des piscines. Je ne discute pas sur le... Il y a 15,7 millions de 2020 à 2027. C'est la répartition de ces 15,7 millions. C'est-à-dire qu'on répartisse 15,7 millions sur 3 piscines seulement de Poitiers, c'est quand même un mauvais signal envoyé à la ruralité. Après, ce qu'on demande, entre autres, c'est de rediscuter en commission la répartition de ce budget, parce qu'on nous a annoncé ces 15,7 millions. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces 15,7 millions. Est-ce que les travaux sont obligatoires, sont urgents, sont prioritaires, comme ceux de Saint-Sauvent? Mais ça, bon, on va pas revenir sur la gouvernance de Grand Poitiers. Hein, on a vécu quelques épisodes. Mais bon, le fait qu'on nous balance des chiffres en commission, c'est comme ça et pas autrement. Et puis ben, derrière, il n'y a pas de discussion. Donc au moins une des exigences, puisque maintenant il y a un nouveau pacte de la gouvernance, c'est de rediscuter en commission thématique le budget des piscines pour qu'on sache exactement ce qu'il y a derrière ces 15,7 millions.
Et quelles sont les autres pistes pour vous? La commune, j'imagine, n'a pas forcément les moyens. Est-ce que la piste d'un privé est possible?
Alors, on est en train de travailler avec Grand Poitiers, hein. Je ne vais pas dire que c'est grâce un peu aux manifestations, mais on est en train de travailler avec Grand Poitiers sur un appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est comme une annonce hein, où on dit, bah voilà, il y a une installation à disposition. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour reprendre l'exploitation de cette installation? Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être un privé, ça peut être une association. Et donc derrière, on va attendre qui se positionne sur cette AMI, hein, donc appel à manifestation d'intérêt pour les connaisseurs, et de savoir si quelqu'un déjà se positionne et de quelle manière. Alors là, ça fait partie aussi des négociations à Grand Poitiers, c'est qu'on est en train de travailler sur cette AMI avec les services de Grand Poitiers, sauf qu'on est déjà en mars, l'AMI va peut-être sortir en avril, quelqu'un va se positionner au mois de mai, et ce qu'on demande, association ou autre, ce qu'on demande, c'est que la piscine de Saint-Sauvent ouvre au moins en 2024, de telle sorte que s'il y a un hypothétique repreneur, il puisse voir la piscine fonctionner durant la période d'été. Voilà. Donc là,
c'est... Et ça, c'est pas sûr ?
Ah, c'est pas sûr du tout. Pour l'instant, c'est non. Donc, j'ai une réunion le 8, vendredi prochain, avec la vice-présidente sport, Corinne Sauvage, et le vice-président bâtiment patrimonial de Emmanuel Basile, et qui on se voit le vendredi. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais ils savent que c'est au moins cette exigence-là, de telle sorte qu'on puisse montrer comment fonctionne la piscine de Saint-Sauvent et aussi que les techniciens de Grand Poitiers puissent expliquer éventuellement à d'autres techniciens comment ça fonctionne, les installations, puisque c'est pour l'instant Grand Poitiers qui fait la maintenance de cette piscine.
Le combat n'est pas fini, donc,
à Saint-Sauvent. Le combat n'est pas fini, parce que d'autres, suivant les réponses, d'autres manifestations sont prévues. Hein. Il y en a une par mois, donc là, on va arriver vers le 23-24. Même, vous avez la primeur, mais bon, le Grand Poitiers, je pense qu'ils le savent, c'est que, vous savez qu'il y a mai à vélo, hein, tous les ans, et Grand Poitiers participe à cette action. Donc, on a demandé à communiquer à Grand Poitiers. On a l'intention, si les choses en restent là, à faire le convoi de l'eau de la piscine de Saint-Sauvent. Et ça serait, le hasard fait mal les choses, au moment où la flamme olympique se promènerait dans Poitiers. C'est-à-dire qu'on partirait de Saint-Sauvent et on monterait à Poitiers avec nos petits vélos. Et puis après, adviendra ce qui adviendra. Hein. Après, on sera autorisé ou pas à manifester. Mais bon, la désobéissance civile, je crois que c'est une marque de fabrication de Grand Poitiers.
Merci beaucoup à Christophe Chappé, je crois que le message est passé, maire de Saint-Sauvent.
Juste, tant que j'ai peut-être une future sénatrice à côté de moi, j'ai une chose à lui demander ou à lui proposer, c'est que quand elle sera élue, c'est de faire évoluer la loi NOTRe. C'est-à-dire que la loi NOTRe interdit à une commune de sortir d'une communauté urbaine. Donc elle est obligée de subir les affronts de la communauté urbaine ad vitam aeternam.
Bon, je vous laisserai en discuter hors antenne. Merci beaucoup à tous les deux. Demain, dans Séquence Midi, on continue d'accueillir les différents candidats à l'élection sénatoriale. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda présenté par Kylian.
Et oui, aujourd'hui s'ouvre l'exposition Droit du futur au Centre socio-culturel Le Local. À l'occasion de son centenaire, la Fédération internationale pour les droits humains vous propose de découvrir les 10 droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et 10 droits du futur illustrés par 20 photos de grands reporters de l'agence Magnum. Une autre exposition s'offre à vous à partir de 15h. La médiathèque de Tercé soumet au vote du public les photos proposées par les habitants dans le cadre du concours graphique. À 18h, la médiathèque de Saint-Éloi vous propose de venir partager vos dernières lectures autour de la thématique du monde ouvrier dans une atmosphère détendue et conviviale. Et enfin, pour terminer la journée, le TAP Théâtre vous invite à 19h30 à découvrir l'univers de Tim Burton au travers des arrangements interprétés dans l'harmonie du Conservatoire de Grand Poitiers dans Danny Elfman x Tim Burton.
Merci beaucoup pour tous ces conseils sortis. On te retrouve dès demain dans Espace Matin à 8h. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h, c'est à l'assaut. À 19h, Slam à tout va. À 20h, on part en Asie avec Pétale de Sakura. À 21h, Culture Dub. Et 23h, Novorama. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec Lynn et ce titre « J'aime pas le goût ». Bon après-midi en musique. À demain.
Fais Amstram, Gram, soit j'avance, soit je calme. Mais dans tous les cas, on va y passer. Je sais pas ce qui me passe dans le crâne, le bruit, puis le calme. Mais juste penser à ne pas y penser. Ouais, j'aime pas le goût de ce que j'ai fait, nous. Je veux juste que ça termine. J'entends encore mes torts m'habiter. Devine qui insiste. On tient plus le coup. Je nous ai amenés au bout. Si on a fait le tour, je le referai 20 fois mon nom.